Dans le grand entretien ce matin sur France Inter, trois invités pour revenir, pour comprendre et pour détailler cette succession depuis dimanche de révélations au sujet du logiciel espion Pegasus. Il faut dire qu'on a franchi un nouveau cap hier en découvrant que le président Emmanuel Macron a été lui-même ciblé par le Maroc. L'un de ses téléphones portables a été directement sélectionné par les services de renseignement marocains. Tout cela remonte à 2019. À l'époque, son premier ministre Édouard Philippe est également ciblé, comme 14 autres de ses ministres, parmi les plus éminents, parmi les plus sensibles, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur ou encore les ministres de la Justice, de l'Économie et de l'Écologie. La situation est évidemment extrêmement grave. Comment la France a-t-elle pu se retrouver visée par le Maroc, un pays ami, et surtout maintenant, comment parvenir à se protéger de telles attaques? Vos questions, vos réflexions sont évidemment, comme chaque matin, les bienvenues sur France Inter au 01 45 24 7000. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jacques Monin. Bonjour Jacques.
Bonjour Karine.
Vous êtes le directeur des enquêtes et de l'investigation à Radio France, la cellule investigation qui fait partie de ce consortium de journalistes qui sort depuis le début de la semaine cette tentaculaire enquête. En direct de Berlin, Étienne Meignier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sécurité à Amnesty International. Amnesty International qui était sollicité par ce consortium de journalistes, par Forbidden Story, pour travailler sur Pegasus. Et enfin, bonjour François de Rugy.
Bonjour.
Vous êtes député de Loire-Atlantique, ancien ministre de la Transition écologique, et votre portable a été ciblé. Il a été trois fois attaqué par les services marocains. Comment vous avez réagi, François de Rugy, quand vous avez découvert qu'à trois reprises, le Maroc vous a attaqué, a cherché à vous espionner?
Je suis assez choqué que cela puisse se faire, que cela puisse se faire entre pays amis, puisque la France et le Maroc... sont deux pays amis. Moi-même, je me considère comme un ami du Maroc. Je crois que je suis vu au Maroc comme cela, d'ailleurs. Je suis un responsable politique. Je ne suis pas un danger potentiel pour la sécurité nationale du Maroc ou pour la sécurité des Marocains. Or, ces logiciels espions, ces techniques d'espionnage des téléphones portables, elles sont faites pour faire de la lutte antiterroriste, pour faire de la lutte contre la grande criminalité, et c'est utile pour cela, il faut le rappeler aussi. Mais là, on voit bien que ces tentatives, dont on ne sait pas si elles ont d'ailleurs forcément abouti ou pas, voilà, on pense que ça n'a pas abouti pour moi, mais il y a quand même eu trois tentatives, et à un moment assez particulier et qui n'est pas anodin, et donc évidemment ça pose beaucoup plus de questions que nous n'avons de réponse. Et je crois d'ailleurs que l'enquête qui a été faite à la fois par de nombreux journaux, mais notamment par le journal Le Monde, moi j'ai été contacté au départ par le journal Le Monde, ou par Radio France, ne permet pas à ce stade d'apporter des réponses. Elle soulève plutôt des questions et c'est tout à fait normal.
Complètement. Est-ce qu'on s'y attend malgré tout? Est-ce que quand on occupe les fonctions qui étaient les vôtres à l'époque, je rappelle que vous étiez le numéro 2 du gouvernement, ministre d'État en charge de la transition écologique, est-ce qu'on se dit que ça peut arriver, est-ce qu'on y pense?
Je vous ai dit que j'ai été choqué quand on m'a dit qu'en effet... alors d'abord, on m'a demandé si j'acceptais que mon téléphone soit inspecté par ce laboratoire indépendant, enfin indépendant qui dépend d'Amnesty International, donc d'une organisation associative, non gouvernementale, mais néanmoins militante, bien sûr. Ce n'est pas une organisation neutre. Ce n'était pas une décision facile, parce que confier comme ça son téléphone portable, évidemment on ne m'a pas tout dit, puisque tout était très cloisonné par les journalistes qui travaillaient sur ce sujet. J'ai finalement accepté, après réflexion, pour en avoir le cœur net, en quelque sorte. Et donc là, on m'a dit, voilà, il y a eu en effet trois tentatives, à telle date, à telle heure même, et c'était important, en l'occurrence, mais sans doute qu'il n'y a pas eu d'aspiration de données. Mais on ne peut pas le certifier non plus à 100%, ce qui évidemment est très choquant. Après, je ne suis malheureusement pas si surpris que cela.
D'accord.
Parce que, d'abord... j'ai vu à quel point les manipulations diverses et variées pouvaient exister il y a 2 ans, me concernant, donc je ne suis pas naïf, et par ailleurs, je sais aussi que quand on exerce des hautes responsabilités, il y a évidemment toujours des enjeux entre États, mais aussi avec des grandes entreprises privées, des enjeux qui sont à la fois diplomatiques et économiques, pour dire les choses simplement.
Jacques Monin, le logiciel espion dont on parle, et dont a été victime François de Rugy, comme le président Macron, ce logiciel s'appelle Pegasus, donc. C'est une société israélienne qui l'a mise au point. Il marche comment ? Comment est-ce qu'il arrive dans le téléphone des personnes qui sont ciblées ? Et qu'est-ce qui se passe ensuite quand il est à l'intérieur de ces téléphones ?
Alors, c'est intéressant de le préciser, vous avez raison, parce que beaucoup de gens se disent, finalement, il a été écouté. C'est ce qu'on entend dans les conversations. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que ce logiciel, il s'infiltre d'abord dans votre téléphone sans que vous n'en preniez conscience. Il n'y a aucun signal qui vous permet de savoir qu'il est entré dans votre téléphone. Que ce soit un iPhone d'ailleurs ou un Android, même si on a plus de difficultés à le détecter sur les Android. Ensuite, une fois qu'il est à l'intérieur, il devient l'administrateur de votre téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, il a accès à tout ce à quoi vous avez accès. C'est-à-dire vos photos, vos données, vos contacts, vos emails, vos messages, y compris sur les messageries chiffrées. Ça, c'est important de le rappeler. On croit que sur Signal ou sur WhatsApp, on est à l'abri. On n'est pas à l'abri puisque ce logiciel voit ce que vous voyez. Et puis surtout, et c'est là que c'est important, il peut activer votre micro et votre caméra. C'est-à-dire que c'est pas juste les conversations téléphoniques. Potentiellement, je dis potentiellement parce que rien ne prouve qu'Emmanuel Macron a été espionné. Hein, et espérons qu'il ne l'a pas été. Mmh. Il est sur la liste, ce qui est déjà grave.
Il était ciblé.
Un acte, Damien Leloup du Monde disait un acte hostile, mais c'est déjà ça. Mettre le président de la République sur cette liste, déjà, on peut se demander ce qu'il fait là. Comme les journalistes d'ailleurs, comme les avocats. Mais si ce micro est activé, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir un mouchard dans la chambre à coucher du président. Dans le bureau présidentiel, dans les bureaux des ministres, là où se prennent toutes les décisions.
Mmh. Alors on parle beaucoup évidemment du président, mais globalement, quelle est l'ampleur du système d'écoute que vous avez découvert avec la cellule investigation ?
Alors l'ampleur, elle est considérable, puisqu'on a découvert qu'en fait, les personnalités des citoyens, des membres de la société civile, étaient surveillés, ou en tout cas figurés sur cette liste, donc étaient potentiellement surveillés, dans une cinquantaine de pays, y compris un pays européen, puisqu'on l'a documenté, là Hongrie, où deux journalistes d'un site d'information d'investigation qui s'appelle Direct 36 ont été ciblés. Il y a un patron de presse également. Mais on parle beaucoup des politiques aujourd'hui et forcément, je veux dire, c'est l'écume des choses. Et je le comprends et c'est grave ce qui s'est passé. Mais je pense quand même que c'est moins grave. Il n'y a pas mort d'homme. Enfin, je veux dire, François de Rugy, il est là, il va bien.
Mais
il y a des pays dans lesquels...
Heureusement. Il a dit qu'il était choqué malgré tout. Hein.
Ce qu'on a révélé les premiers jours est quand même beaucoup plus grave, quelque part. Là, on a la version 2.0 de l'espionnage à l'ancienne. Il y a toujours eu des taupes, il y a toujours eu des micros dans les ambassades. Mais au Mexique, il y a un journaliste, Cecilio Pineda, qui, lorsqu'il a figuré sur cette liste, 3 semaines après, il était assassiné. Jamal Khashoggi, on sait que son téléphone a été espionné par Pegasus avant son assassinat. Il y a en Inde des journalistes qui enquêtent sur des contrats qui font l'objet de poursuites, dont on sait qu'ils figurent également sur cette liste. Donc il y a des gens qui sont vraiment en danger à cause de ça.
Alors je me tourne vers le chercheur en sécurité, Étienne Meynier, je ne vous ai pas oublié. Ce que je voudrais savoir évidemment quand j'entends tout ça, c'est est-ce qu'on a moyen de résister ?
Alors c'est très compliqué de résister techniquement à Pegasus, parce que Pegasus se repose sur des vulnérabilités qui sont inconnues et qui n'ont pas été corrigées. Donc la plupart du temps, là où on pourrait faire des mises à jour de son téléphone, de ses applications, là ce n'est pas possible. Et donc ça pose vraiment des graves problèmes techniques pour se protéger, pour des militants, pour des journalistes. À long terme, il y a 2 directions dans lesquelles aller pour se protéger de ça. D'une part, techniquement, on espère que ça va créer des débats au sein des communautés techniques pour améliorer la sécurité des téléphones par les grosses entreprises de technologie. Mais d'autre part, il va falloir qu'il y ait des réponses politiques. Et nous, ce qu'on demande, c'est avoir une réglementation internationale et notamment avoir un moratoire qui interdit l'utilisation et la vente de ces armes. On ne pourra pas se sortir de ce problème de la prolifération de cette industrie de la surveillance uniquement avec des solutions techniques.
Mmh. Et ce qui est très surprenant, enfin très choquant, j'ai envie de dire, pour la néophyte que je suis, Étienne Meynier, c'est que, si je comprends bien dans toutes ces affaires, c'est qu'on est en face d'une entreprise privée, NSO, qui vend du matériel d'espionnage à des États. J'ai envie de vous poser la question tout bêtement, est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Est-ce que c'est normal ?
Alors, non, ce n'est pas normal. Clairement, on voit bien l'ampleur de ces abus aujourd'hui. En termes de droit international, l'utilisation de la surveillance ciblée peut être légitime dans des cas extrêmement précis, avec une réglementation pour des cas, par exemple, de terrorisme. On voit bien que là, ça va bien au-delà de ça. Mais ceci dit, il y a très peu de réglementation. Les réglementations aujourd'hui ne suffisent pas. Elles se reposent principalement sur de la limitation des contrôles des exportations, qui ne fonctionnent pas du tout dans ce cas-là. Amnesty a fait une requête au ministère de Défense en Israël en demandant à supprimer les licences d'export de NSO et ça a été refusé. Et c'est donc pour ça qu'il faut qu'il y ait des accords internationaux, il faut qu'il y ait des traités extrêmement stricts pour limiter ces utilisations et ces ventes.
Mmh. Jacques Monin, je reviens vers vous. Expliquez-nous le rôle qui a été joué par Israël, justement. Étienne Ménian en parlait à l'instant. Donc c'est quoi le rôle précis d'Israël dans tout ça?
Oui, c'est très important parce que quand on observe ce qui se passe, on se rend compte qu'Israël utilise finalement NSO et ce logiciel comme un outil d'influence. C'est-à-dire, on le voit très bien avec la Hongrie, quand Benjamin Netanyahou est allé en Hongrie en 2017, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de chef d'État israélien qui s'était rendu dans ce pays. Et comme par hasard, son conseiller aux affaires étrangères, quelques mois plus tard, se rend en Israël et comme par hasard, et c'est pas du complotisme, hein, c'est une juxtaposition de faits, quelques mois plus tard, le logiciel Pegasus entre en fonction. Donc on peut en déduire que dans la corbeille de la mariée, il y avait effectivement Pegasus. Il ne vous a pas échappé que le Maroc et Israël se sont rapprochés aussi ces dernières années. Et là, on se rencontre, et l'Élysée le savait d'ailleurs, hein, même si on n'imaginait pas que le Maroc puisse nous cibler, on savait que NSO était utilisé par le Maroc.
Alors, je voudrais qu'on aille au standard. Il y a plein de questions, évidemment. La première, Hugues, qui habite Paris. Vous êtes sur France Inter, vous êtes le bienvenu. On écoute votre question.
Ma question est simple. D'ailleurs, c'est une question qui a été soulevée par Le Parisien aujourd'hui. Est-ce que nos dirigeants n'ont pas fait preuve un peu de naïveté ou de nonchalance par rapport aux menaces? Parce qu'il paraîtrait que les services secrets français auraient avisé la présidente de la République des menaces qui auraient été possibles sur les smartphones utilisés par le président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème, un peu de naïveté de nos dirigeants et de manque de précaution dans l'utilisation de ces smartphones?
Alors, merci beaucoup Hugues. Je pose la question à Jacques Monin et puis j'irai voir François de Rugy également juste après. Jacques.
Bah oui, on peut se poser la question et ça touche justement un peu à l'image aussi que s'est construite Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron a construit son image sur le côté connecté, le président moderne. La modernité était quasiment en soi un projet politique. Et on se rend compte là que finalement, il s'est fait dépasser par cette image de « je suis un président qui utilise mon portable, je suis sur les réseaux sociaux, les messageries cryptées ou pas, etc. » Et il y a probablement, oui, une forme de naïveté, de méconnaissance, en fait, de la nocivité de cet outil pour lequel il avait été averti. Effectivement, l'ANSSI, hein, l'Autorité Nationale de Sécurité des Systèmes
Tout
d'Information, avait averti le président. La DGSI avait averti le président et il continue d'utiliser plusieurs téléphones portables. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de légèreté de sa part. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vu venir l'adversaire. C'est vrai que aujourd'hui, y compris les experts militaires, vous disent, lors de la prochaine campagne présidentielle, les tentatives d'ingérence viendront de la Russie, de la Chine,
de
la Turquie. On se méfie évidemment des États-Unis, mais on le dit pas trop parce que c'est notre allié. Mais personne ne parlait du Maroc. Personne.
Parce que c'est un pays ami. François de Rugy, comment vous réagissez aux propos de Jacques Monin? Est-ce qu'effectivement vous êtes suffisamment, vous êtes suffisamment prudent, vigilant? Est-ce que le président n'a pas été trop léger sur cette affaire?
D'abord, je crois qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à la situation française, et Jacques Monin l'a dit tout à l'heure, ça touche donc plusieurs pays, on a, je crois, près de 50 000 numéros de téléphone qui ont été ciblés, et en réalité, y compris au Maroc, y compris autour de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, y compris peut-être
lui-même. Enfin, ce sont les services de renseignement marocains qui ciblent Sa Majesté le Roi, donc ça reste les mêmes.
Donc c'est quand même étrange. Non mais c'est étrange.
Bien sûr.
On ne voit pas forcément le lien entre tout cela. Ensuite, sur ce qui est des pratiques françaises, moi j'ai été donc président de l'Assemblée nationale, j'avais une ligne téléphonique spécifique, sécurisée, utilisée pour un certain nombre d'appels, notamment sur des sujets de sécurité nationale ou de diplomatie, évidemment utilisée assez épisodiquement, hein, ça n'est pas au quotidien, parce que la plupart des conversations ne relèvent pas de
du
ces échanges
défense,
de sécurité. Voilà. Concernant, quand j'étais ministre également, il y a par ailleurs des téléphones mobiles eux-mêmes plus sécurisés, mis à disposition par les services de sécurité français auprès des ministres. Après, il faut être bien conscient d'une chose. Si on commence à dire qu'il faut se méfier d'un logiciel espion comme celui-là, dont Jacques Monin a bien décrit comment c'est fait de façon extrêmement sournoise et discrète, puisqu'il n'y a aucun repérage possible, eh bien ça veut dire qu'on n'utilise plus son téléphone mobile de type smartphone. Or, vous imaginez aujourd'hui un ministre, ou même un président de la République, qui dirait « je ne fais plus que des conversations de vive voix dans mon bureau, ou je n'utilise plus que des téléphones cryptés, je n'utilise plus de messagerie, plus de mails ». Ça rend la vie un peu possible, non pas la vie personnelle,
mais, on peut comprendre
mais
de la part
aussi
d'un ministre,
et surtout le travail.
Est-ce que le président, malgré tout, ne doit pas se protéger à ce point-là ?
Comme toujours, chaque fois qu'il y a une crise, c'est l'occasion de prendre des nouvelles mesures et d'avoir des préconisations de sécurité supplémentaires. Mais il faut que chacun soit bien conscient. Et je crois que si on l'imagine un instant dans sa vie personnelle, professionnelle, avant même de parler de la vie privée, eh bien on voit bien que ce serait mission impossible. Je vais vous dire, très concrètement, lorsque le journaliste du Monde est venu me parler de cette affaire, il m'a demandé, un, qu'on se voit dans mon bureau, donc qu'on n'échange pas par téléphone, ensuite qu'on mette les téléphones dans une pièce à côté de mon bureau, et que l'on échange de cette façon-là. Bon, alors après, si on veut se revoir, alors on se rappelle, ah non, là on se rappelle pas, on envoie des messages, ah non, là il faut pas en envoyer. Vous voyez bien que ça rend la vie de travail impossible, donc il faut trouver la juste mesure, il faut lutter contre cela comme ça a été dit, il faut pas être naïf, c'est une course contre la montre permanente dans l'utilisation de la technologie qui a des bons usages, comme évidemment des usages détournés et malveillants.
C'est pas faux, Jacques Monin.
C'est pas faux. Moi, je pense qu'à partir du moment où on prend conscience du danger, on peut peut-être réfléchir à des parades. Moi, je pense qu'il y a eu quand même une sous-estimation du danger qui fait qu'on n'a pas vu venir les choses. Nous, on travaillait effectivement sur NSO. On savait que potentiellement, on pouvait être ciblé si NSO apprenait quelle était la nature de notre enquête. Et on a pris des précautions extrêmes. Ça ne nous a pas empêché de travailler. Il y a des moyens. Il faut juste vouloir effectivement les utiliser. Il y a Théorème, il y a ce CryptoSmart. Il y a des systèmes qui permettent de communiquer. Donc, ce que je voulais préciser aussi, c'est que là, on parle de 2019. Mais ça continue.
Bien sûr.
Ça continue. Élodie Guéguin de la cellule d'investigation de Radio France a pu établir, en rencontrant Claude Mangin, dont le mari est emprisonné au Maroc, que son téléphone avait été infecté il y a quelques semaines seulement. Et je vous raconte une anecdote rapidement. On a voulu justement, parce que c'était la démonstration que ça continuait aujourd'hui, on a voulu récupérer son téléphone pour l'envoyer en Allemagne au labo d'Amnesty International pour faire des analyses complémentaires. Donc on lui a prêté un téléphone portable de la cellule d'investigation de Radio France, qu'on avait nous. On a récupéré ce téléphone quand le sien est revenu, on l'a refait analyser, il était à nouveau infecté. Et ça, c'était il y a quelques jours.
Je vous propose d'aller au standard. On a François qui nous attend dans sa voiture, alors on va se dépêcher pour lui. Vous êtes sur France Inter, vous êtes le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, deux petites questions. La première, c'est, sachant qu'on n'a pas d'amis à l'international, de qui le Maroc est-il la marionnette dans ce cas-là ? Parce qu'à ma connaissance, c'est pas une grande puissance géopolitique et c'est pas une grande puissance de recherche en crypto. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, ensuite, après, mais ça ne ressouligne-t-il cette situation, ce scandale, ne souligne-t-il pas encore une fois la vulnérabilité et l'absence de sensibilité du personnel politique français à tous ces problèmes et en exergue, en fait, sachant qu'on a on est assez costaud en mathématiques, on est quand même un peu largué visiblement pour repérer justement nos amis en train de nous espionner. Je vous remercie.
Merci beaucoup François. Je soumets la question à Jacques Monin. Alors la première notamment.
Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a des rumeurs effectivement qui circulent sur en gros qui aurait financé l'achat du logiciel pour les Marocains parce qu'il coûte très cher. On n'a aucune information là-dessus. Donc là, je ne m'avancerai pas sur ce terrain. En revanche, on sait que le Maroc a un certain nombre d'obsessions et ça peut expliquer aussi l'intérêt qu'il peut avoir pour la position du gouvernement français. On sait qu'il est obsédé notamment par le Sahara occidental. On sait qu'il est obsédé par la question algérienne. Et le ciblage d'Emmanuel Macron correspond à un moment où il y avait des événements graves, des manifestations en Algérie, où le président Bouteflika était en difficulté. Donc on peut penser effectivement que le Maroc a appuyé sur le bouton, en tout cas a inscrit le nom dans la liste préalable à une éventuelle attaque à ce moment-là, pour savoir quelle était la position française. Quant à savoir pourquoi autant de monde a été ciblé en France, je crois que c'est assez simple. Je sais qu'un certain nombre de personnes qu'on a contactées nous disent « mais on comprend pas pourquoi ». Mais juste parce que quand vous êtes l'épouse du Premier ministre, forcément,
potentiellement,
vous pouvez entendre des choses et votre téléphone peut entendre des choses du Premier ministre.
Alors, il y avait aussi l'aspect de la question, trop léger en France, pas assez bon en mathématiques, on bosse pas suffisamment sur ces sujets. Étienne Manier, je me tourne vers vous. Est-ce qu'effectivement, on est un peu défaillant en France sur ces questions-là, sur ces sujets-là de surveillance ? On a perdu... ça y est, je vous écoute.
Allez. Non, je pense que c'est pas une question spécialement de la France, puisque les problèmes de sécurité dont on parle, c'est des problèmes qui sont vieux comme l'informatique, de savoir développer des applications de manière sécurisée. Et c'est des problèmes auxquels se confrontent aujourd'hui Apple, Google. On voit bien que ces problèmes-là, ils sont arrivés sur des téléphones développés par Apple. Probablement qu'il y a les mêmes chez Google. En France, effectivement, il y a des très bonnes compétences en sécurité. La question, est-ce que ça a été pris à sa juste mesure ? Est-ce que les outils ont été développés ?
Ça, c'est une question
différente.
Ouais.
Alors c'est une question, c'est assez difficile à savoir. En tout cas, c'est des technologies qui sont pas propres à la France, que ce soit les technologies Apple. Et c'est un problème sur lequel il y a des discussions internationalement avec des chercheurs, des excellents chercheurs français notamment, sur comment régler ces problèmes de failles numériques. Et derrière ça, il y a pas qu'une question technique, il y a également une question de l'utilisation et la revente de ces failles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un marché parallèle qui s'est fait pour revendre et acheter pour des millions ces failles informatiques, et ça c'est plutôt un problème économique et un problème d'ordre politique, un problème purement technique.
Mmh. Alors, j'aimerais savoir aussi maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on dit à Israël et qu'est-ce qu'on dit particulièrement au Maroc? Je me tourne vers le politique, François de Rugy. Qu'est-ce qu'on fait?
D'abord, j'abonde dans ce qui vient d'être dit, et on ne peut pas dire que la France ne soit pas compétente.
Oui, je vous
les
ai
services
vu,
secrets français et les services, tout simplement, sur la sécurité informatique sont très compétents et font partie des pays à la pointe en la matière.
Bon. D'accord.
Mais c'est une course contre la montre technologique. Après, il y a en effet des questions plutôt diplomatiques.
Voilà.
Personnellement, d'ailleurs, j'ai demandé à l'ambassadeur du Maroc en France de me fournir des explications. Les autres personnes concernées prendront les initiatives qu'elle juge utile. Le gouvernement français, évidemment, a déjà pris aussi un certain nombre d'initiatives. Par rapport à la société NSO, là, c'est différent, puisque c'est à la fois une société privée, mais on sait qu'elle est quand même assez liée au gouvernement israélien. Par ailleurs, il faut aussi comprendre et le rappeler, ce n'est pas un hasard si Israël a toujours développé énormément de technologies autour de la sécurité, car l'État d'Israël est en perpétuel, évidemment, sentiment de menace, y compris dans son existence même. Donc, c'est assez logique que Israël ait toujours été à la pointe en matière de sécurité. Après, comme dans, encore une fois, dans tout système, il peut y avoir des bons usages et des détournements. Et ce qui a été dit par le responsable d'Amnesty International sur le fait d'avoir une réglementation internationale, moi je le souhaite. Ça ne veut pas dire arrêter d'utiliser ces systèmes pour la sécurité,
ça
encore
veut
une
dire
fois,
les réglementer,
mais pour réglementer
les
éventuelles dérives, sans être évidemment naïf sur le fait que des pays qui, par ailleurs, ne respectent jamais les règles, ça y en aura toujours. Il faudra évidemment toujours s'en méfier.
Mais vous ne répondez ne répondez pas à ma question, François de Rugy. Est-ce qu'il va falloir demander des comptes au Maroc?
Ah mais bien sûr, si, si. Moi, quand je dis demander des explications, bien sûr. Après, encore une fois, on a vu que c'était plusieurs États. On voit que il y a des milliers de gens qui sont ciblés.
Des,
donc,
des explications,
c'est quelque chose qui dépasse simplement le Maroc.
Jacques Monin, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je voulais juste dire, il y aura forcément des grands cris d'indignation parce qu'on ne peut pas faire autrement. Est-ce que la France a envie de se payer une crise diplomatique avec le Maroc profonde? Ça, j'en suis moins convaincu. Donc, il y aura sans doute une enquête, probablement pour atteinte à la sûreté de l'État, dont on se demande ce qu'elle pourra donner, parce que je vois mal la France juger Mohamed VI, mais enfin bon, il y aura peut-être des têtes qui tomberont. Il faudra observer ce qui se passe au Maroc, si dans les semaines qui viennent, là va y avoir les fêtes de l'Aïd, mais bon, ça prendra un peu de temps, mais est-ce que Abdelatif Amouchi, qui est le grand patron, puisque là-bas, vous savez que la police et le renseignement sont sous la coupe d'une seule et même personne, est-ce qu'une tête tombera? Et puis la France peut faire pression aussi sur Israël pour demander à ce qu'on coupe l'accès de NSO au Maroc, et ça peut se faire aussi, j'allais dire, en coulisses ou en sous-main. Et NSO, malgré ses démentis, a déjà dit que si des enquêtes montraient qu'un certain nombre de détournements de son logiciel avaient eu lieu, ils étaient prêts à couper des branches.
Mmh. Une dernière question, parce que le temps file. Je me tourne vers Étienne Meignier. Voilà, on est à un an d'une présidentielle en France, je dirais même moins d'un an, on est à 9 mois. On l'a juste esquissé, on en a très légèrement parlé depuis le début de ce grand entretien. Quel sera, est-ce que vous arrivez à le mesurer, le niveau des intrusions étrangères l'année prochaine, année 2022, année présidentielle?
Alors c'est extrêmement compliqué à mesurer, il y a eu beaucoup de recherches de fait, notamment sur les élections américaines, sur des possibilités d'intrusion. Je pense que de plus en plus, les journalistes, les militants, mais également le personnel politique est formé à ça et comprend plus les enjeux. Et j'espère que notamment ces révélations vont permettre d'avoir une prise de conscience au sein du personnel politique, au sein des journalistes, du fait qu'on ne peut plus aujourd'hui être une personne politique, être un journaliste sans avoir des connaissances même de base en sécurité informatique et en prenant des précautions.
Mmh. Un grand merci à tous les trois. La semaine n'est pas terminée. Jacques Monin, il faut encore s'attendre à quelques révélations ou pas?
Quelques-unes.
Je vous vois sourire, je vois les yeux qui pétillent. Vous me faites peur. Très belle journée à tous les trois.
France Inter.